pour investir, le placement à suivre.
Et je suis avec William Léon de WM Capital. Bonjour.
Bonjour Antoine.
Alors, j'avais hâte de vous recevoir parce que c'est quand même pas un secret que depuis le début où j'ai présenté cette émission, on a tout un tas de conseillers en gestion de patrimoine, oui, de conseillers financiers qui nous disent « Attendez, quand le marché est volatile, comme il a pu l'être ces dernières semaines ou de manière générale en ce moment, ne vous précipitez pas. Passez pas d'un coup, vendez tout et d'un coup achetez tout. » Parce que premièrement, vous allez y perdre. Deuxièmement, vous allez louper la reprise. Et c'est l'argument principal d'ailleurs. Maintenant, il est possible aussi de se couvrir contre les mouvements de marché. Et on voit ça avec vous, William Léon. Donc, WM Capital, votre stratégie, c'est à la fois de préserver le patrimoine sur le long terme, mais de temps en temps, de mettre des petits coups d'arbitrage, de hedge, en fait, pour protéger un petit peu plus le patrimoine. Et ça, pas forcément pour les hedge funds et les pros de la finance, mais pour des gens qui ont un petit patrimoine.
Exactement. Alors, en fait, déjà, par rapport à ce que vous venez de dire, je suis assez d'accord, il ne faut pas non plus se précipiter, tout vendre.
De manière générale, ouais.
De manière générale, c'est important.
Ce qu'on appelle le knee-jerk.
Exactement. Voilà, néanmoins, il faut faire aussi attention, c'est qu'on a vu précédemment, sur les dernières années, qu'il y avait des actifs sur lesquels les clients étaient investis, pour lequel on peut être resté tanké un certain nombre d'années. Je vous donne un exemple très concret. Je reprends un peu de contextualisation. Envahissement de l'Ukraine par la Russie, reprise de l'inflation, hausse des taux. La hausse des taux a entraîné notamment sur les marchés immobiliers des baisses de valorisation. On sait que pas mal de nos clients qu'on a rencontrés, donc le cabinet qui est créé en 2023,
bien sûr,
qui était cantonné sur du fonds euro et des actifs immobiliers.
Le problème donc là, directement exposé au taux.
C'est ça. Et le problème de ces valeurs-là, donc les SCPI et les SCI notamment, ont diminué entre moins 25 et 40%. On pouvait se dire, on va attendre que le cycle immobilier reprenne.
Ouais.
Le problème, c'est qu'en fait, le cycle immobilier, aujourd'hui, il n'a toujours pas repris.
Il ne reprend pas. Hein.
Et donc, du coup, se dire, je reste tanké sur des actifs comme ceux-ci, j'attends que ça passe et puis je verrai ce que ça donne. Clairement, nous, avec mon associé Mathias, ce n'était pas notre vision. Et donc, ce qu'on a voulu faire à ce moment-là, c'est qu'on s'est dit, OK, l'immobilier, pour le moment, on n'a pas d'espérance de reprise. On va préférer justement shorter, donc revendre ces positions-là. Et on les a repositionnées sur un actif qui était boudé pendant une vingtaine d'années, qui ont été les obligations. Et les obligations, finalement, sur les trois dernières années, ça s'est envolé. Et donc, finalement, la perte qu'on aurait pu avoir avec un actif tanké, on l'a repris sur les obligations.
Alors voilà, il ne s'agit pas non plus de faire de l'arbitrage court terme comme le font les hedge funds. Mais voilà, de s'ajuster un petit peu. Par exemple, ça peut être aussi, on a beaucoup parlé des performances mirobolantes de Wall Street.
Oui.
Ouais, beaucoup s'y sont exposés, simplement. Y a eu le niveau du dollar qui a mangé beaucoup de leurs performances.
Voilà.
Donc ça aussi, les taux de change, c'est quelque chose sur lequel vous bossez?
Alors, les taux de change, c'est quelque chose effectivement sur lequel on bosse parce qu'aujourd'hui, en fait, on a des clients qui deviennent de plus en plus inquiets par rapport au contexte.
Ouais.
Donc, contexte géopolitique global, certes. On le voit en ce moment, notamment avec le prix de l'essence qui a plus de 2 euros, la reprise dans l'inflation, mais aussi par rapport au contexte français. En fait, on a assez peu de visibilité sur la fiscalité. On a un manque de visibilité aussi sur la zone euro et sa capacité de rebond. Donc, en fait, on a des clients effectivement qui viennent nous voir pour justement qu'on leur propose des placements. Donc, je pense notamment à l'assurance vie luxembourgeoise sur lesquels on va pouvoir utiliser des outils de couverture sur différentes devises, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui sur le contrat assurance vie français, par exemple. Voilà, c'est des choses qu'on va proposer.
Ouais, intéressant. Et alors là, on ouvre le capot. Effectivement, il y a le support d'investissement qui permet les ajustements. Et là, l'assurance vie luxembourgeoise est un bon exemple. Est-ce qu'il y a d'autres produits que vous regardez de manière à pouvoir un petit peu protéger les positions de vos clients? Je vous dis ça parce que quand on est un gros hedge fund, quand on est une grosse société de bourse, on a toujours des visées, mais c'est pour des clients un petit peu gros, institutionnels, bien établis. Comment ça se fait que vous arrivez à piocher des produits justement pour protéger les petits patrimoines?
Alors concrètement, en fait, la base de notre conseil va reposer sur la mutualisation de nos clients. Vous avez raison, Antoine, globalement, par rapport aux actifs institutionnels, la taille. Pour pouvoir y accéder, sur les contrats assurance vie, on va parler de 500 000 euros à 1 million d'euros à l'ouverture. Sur des actifs, je pense notamment aux clubs deal immobiliers qui ont un peu le vent en poupe en ce moment, on est plutôt sur des actifs qui sont entre 3 à 5 millions d'euros pour pouvoir y accéder. Et clairement, ce n'est pas accessible à tous les clients. Nous, ce qu'on fait justement, c'est en mutualisant la surface financière de tous nos clients, on va se présenter auprès d'acteurs institutionnels. Et ceux-ci vont nous proposer justement, grâce à la mutualisation, d'abaisser les tickets d'entrée. Donc, on va pouvoir proposer à nos clients justement non pas d'investir sur des tickets d'un million ou 2 millions d'euros, et les baisser sur des tickets de 100 000, 300 000, parfois même sur du 20 000, 40 000 euros. Sur du club deal, c'est déjà arrivé. Oui. C'est arrivé sur de la dette privée aussi.
Ouais.
Et là, en ce moment, quelque chose qui fonctionne assez, de manière assez importante, que ce soit en Europe ou dans le monde, c'est aussi le private equity.
Bien sûr.
Actif d'un côté. Pour vous donner un chiffre, la Bank of America a sorti une étude récente. Ils conseillent du coup à leurs clients d'avoir entre 20 et 25% d'actifs en private equity dans les portefeuilles.
D'accord.
Aujourd'hui, pour vous donner une statistique sur le cabinet, chez WM Capital, quand un client vient nous voir, c'est entre 0 et 1%.
Bah oui, c'est minuscule. Puis c'est en pleine expansion. Maintenant, vous prenez les premières places parce que, voilà, justement, c'est une dynamique qui est en cours. Alors, cela dit, on est en pleine stratégie un petit peu active.
Oui.
Tout ça, ça a un coût, non, pour le client au final?
Alors oui, néanmoins, on parlait de la partie institutionnelle sur la partie non cotée.
Ouais.
Vous l'avez également sur la partie cotée.
Ouais.
Nous, ce qu'on préconise à nos clients, c'est justement d'aller sur de la gestion professionnalisante. Donc on va basculer les portefeuilles sur le côté en gestion discrétionnaire. Donc la gestion discrétionnaire, c'est la gestion sous mandat
ou
qui est donnée à un professionnel. Dans cette gestion sous mandat, vous avez accès non pas aux parts retail, vous allez avoir accès aux parts institutionnelles. Parce que globalement, dans un fonds action, un fonds oblique, peu importe, sur une assurance vie française, luxembourgeuse ou autre, vous avez deux types de parts. Vous avez la part pour monsieur tout le monde qui a 100 euros, tout le monde peut y accéder, et vous avez la part institutionnelle sur les tickets d'entrée que j'ai évoqués juste avant.
Mais là, oui.
La différence, elle se situe dans les frais, justement. Les frais, ils vont être divisés par 3.
Ouais.
Divisés par 3, à l'arrivée, non seulement l'aspect volatile, on va la moins encaisser parce que, évidemment, les frais sont appliqués même si vous êtes sur des périodes de baisse. Donc pour remonter, c'est moins compliqué. Et à côté de ça, sur les phases de hausse, vous allez avoir un soufflet de performance qui va être beaucoup plus important. Donc finalement, à l'arrivée, sur les actifs institutionnels, vous allez avoir des frais qui vont être abaissés parce que les institutionnels, on parle des assureurs, des fonds de pension, des mutuelles. À quoi vont servir les fonds? Réparer les sinistres, enfin couvrir les sinistres, ou à défaut, payer les retraites. Donc du coup, ils prennent un risque qui est minimal, et pour couvrir le risque, il faut qu'il y ait des frais qui soient aussi bas.
Effectivement, ça paraît tout à fait logique. Mais j'allais vous dire, justement, dans ce marché où les taux prennent de plus en plus d'importance, où on voit des déséquilibres croissants du côté des paires de change, j'en veux pour preuve là ce qui est en train de se passer du côté du Japon, ce qui est sans doute en train de se passer du côté du Royaume-Uni. Hein, ça, on va suivre ça, mais l'instabilité politique, c'est mauvais. On est dans un monde instable, politiquement, donc cette stratégie, a priori, c'est un boulevard de croissance pour vous.
Oui. En fait, globalement, si vous voulez, aujourd'hui, si vous me permettez le terme, la gestion de bon père de famille, c'est un peu terminé.
C'est ça. Elle est là, la vérité. C'est qu'on peut plus être totalement passif sur son... Beaucoup de CGP viennent en parler aussi au quotidien.
Complètement.
Mais justement, le côté, on va mettre de côté, on va oublier. Non. C'est plus possible, ça.
Complètement.
Et donc, vous êtes au cœur de cette stratégie. C'est aussi quelque chose qui vous distingue un petit peu de vos principaux concurrents, parce que j'imagine que tout ça, c'est énormément de travail.
Oui.
Et puis aussi, c'est une optique qui est totalement à la fois globalisée et centrée sur le petit client.
C'est ça. Alors, globalement, pour vous donner un peu de statistiques, aujourd'hui, donc nous, on a été créé en 2023. À la fin de l'année, on avait à peu près une trentaine de clients. On est aujourd'hui à plus de 300 clients qui sont accompagnés au sein du cabinet.
D'accord.
Qu'est-ce qui a fait notre succès? Donc, il y a effectivement cet aspect gestion. On a basculé les portefeuilles, mais c'est aussi donc l'indépendance commerciale pour conserver de l'agilité. En fait, ce qui va faire qu'on va pouvoir se couvrir sur des périodes de baisse, c'est l'agilité par rapport au patrimoine et au portefeuille des clients. Et à côté de ça, c'est aussi la transparence. On parlait des frais tout à l'heure. Le fait d'instaurer une transparence des frais avec des frais qui sont abaissés et sur une catégorie institutionnelle, ça va permettre justement de renforcer la confiance long terme. Et donc, les clients, on va pouvoir leur adresser justement grâce à la mutualisation sur des actifs institutionnels type club deal, type private equity, type dette privée. Et c'est surtout ça qu'on va préconiser dans des périodes de volatilité parce qu'on va justement investir sur des horizons qui vont être un petit peu plus longs et... à côté des marchés non cotés.
Et sur le marché actuellement, vis-à-vis des actifs sur lesquels vous êtes positionné, là en ce moment, vous prévoyez une volatilité qui va encore durer un certain temps. Je sais bien que vous n'avez pas de boule de cristal, moi non plus, et personne. Mais là, c'est en position par balle pour encore un long moment, visiblement.
Ouais. C'est pour ça, là par exemple, pour vous donner un exemple concret de ce qu'on a réalisé récemment, lorsqu'il y a eu la période justement de taux où on s'est dit que la Banque Centrale allait baisser les taux, on avait justement de la visibilité, on s'est dit l'immobilier va reprendre. Ce qu'on a fait, c'est que lorsque vous avez une reprise, bon, là, en ce moment, avec Donald Trump, c'est difficilement lisible, vous allez me dire.
Ouais.
Néanmoins, on a commencé justement à orienter les portefeuilles sur du non-coté et on est allé chercher, par exemple, ce qu'on appelle des trophy assets. Donc les trophy assets, c'est par exemple du club deal immobilier, comme je vous l'expliquais. On sait que dans l'immobilier, vous avez deux types de supports. Vous avez l'immobilier classique, investissement locatif, vous avez l'immobilier type ultra-luxe. Mmh. L'ultra-luxe, c'est un marché qui ne connaît pas la crise. Concrètement, vous allez toujours avoir des personnes qui souhaitent investir. Mmh. Et là, récemment, par exemple, on a proposé à nos clients des actifs qui vont être, par exemple, sur l'avenue Montaigne, sur du local commercial.
Alors là, on ne prend pas trop de risques. Ouais,
voilà, en sachant que vous avez un taux de vacances qui est proche des 0%, ou à défaut, on va aller, par exemple, sur de la titrisation d'œuvres d'art. Donc l'œuvre d'art, par exemple...
Tout à fait, oui.
C'est des choses auxquelles, finalement, bah, les clients ne sont pas exposés. Vous êtes couvert par rapport justement à ces notions de taux de change dont vous avez parlé. Mmh. On va être couvert sous d'autres pièces d'actifs, type les actifs cotés.
Ouais, super diversifié, effectivement. Ben, merci beaucoup pour ce point stratégie, William Léon, cofondateur de WM Capital.